Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Joudard, le 30 mai 90.
Quelle différence entre jugement et discernement? Le jugement n'est-il pas le fruit du discernement? Et ce dernier, une sorte de raisonnement? De regarder l'étymologie du mot jugement en français, en latin, en grec. On saisirait des aspects divers d'une réalité complexe. La simplex apprehensio, l'appréhension simple et simple. Elle touche en saisissant l'acuité. Mais, alors là, les deux cours se rencontrent, hein, critique et philosophie du vivant. C'est bien parce que ça vous permet d'avoir deux visions différentes. C'est pas commode quelquefois de bien discerner les deux aspects. Ça se tient, c'est évident. Ici, je vois avant tout le point de vue de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un vivant spirituel? Tout vivant assimile. Il cherche sa nourriture et l'assimile. Et ce vivant particulier qu'est l'homme est un vivant spirituel. Et dans le monde sensible, physique, il assimile ce qu'il peut assimiler. Il ne peut pas assimiler la matière. Il ne peut pas assimiler la quantité. Il assimile la forme. Je sais bien que la quantité a une forme. Alors, ce serait une assimilation très particulière, l'assimilation de la quantité. C'est un peu lourd pour l'assimilation spirituelle. Il y a un régime à l'intelligence. C'est sûr. L'intelligence assimile en premier lieu la qualité, la forme. Et les qualités propres. Elle assimile l'intelligible, simple, ce qu'on appelle l'acuité. C'est cet appétit de l'intelligence d'assimiler ce qui est assimilable. Tout dans la réalité physique n'est pas assimilable. Tout procédé d'abstraction, de rejet. c'est au-delà du sensible, c'est l'assimilation. Oui, on pourrait dire ça du côté du vivant. C'est la première percée vitale. Au-delà du sensible. Vous savez, quand vous voyez du macadam, et puis il y a une petite fissure, et puis vous voyez une petite plante qui pousse, ça me fait penser tout de suite à l'appréhension, ça. Il y a le gros macadam imaginatif. L'imagination, c'est la quantité. C'est très très lourd. Puis, on a accumulé d'autres choses. Plus on est vieux, plus on a accumulé. On a accumulé des couches successives. Et l'intelligence a toujours cette vitalité qu'elle est toujours à sa source. L'intelligence ne vieillit pas. Elle n'a pas d'âge, l'intelligence. Elle a un âge par le sensible, par l'imagination. Mon imagination a un âge. C'est pour ça que je peux faire l'archéologie de l'imagination. Et une philosophie qui fait l'archéologie, c'est parce que c'est une philosophie qui reste en l'imaginaire. Foucault. Procédé archéologique. L'intelligence ne peut pas avoir un procédé archéologique. Elle ne peut avoir qu'un procédé de source, tout de suite. Et elle dépasse tout de suite le sensible. Et sa percée du sensible a cette qualité d'être simple. Parce que c'est une vitalité prodigieuse, appréhension, pour assimiler dans les réalités sensibles que j'ai, que je porte en moi, par les images et dans les représentations, ce qui est intelligible. Qu'est-ce qu'il y a d'intelligible dans une image? L'intelligence, c'est ça tout de suite. Vous voyez? Comme un vivant saisit immédiatement ce qui est capable dans le monde végétatif, ce qu'il peut assimiler et ce qui est un poison. Et si l'intelligence n'a plus cette vitalité, elle assimile du poison. C'est-à-dire qu'elle confond. Elle n'a plus la vitalité forte, suffisamment forte, pour discerner ce qui est assimilable. Mais elle fait ça naturellement. Le gagatisme, c'est ça. Alors, il y a des gagatismes précoces. Il y a des cultures qui sont au niveau du gagatisme précoce et qui confondent complètement l'imagination et l'intelligence. Aristote avait averti ça. Alors, c'est beau de voir la naissance, vous voyez, point de vue de la philosophie du vivant, voir la naissance de l'intelligence. Elle naît, j'allais dire, avec ce sens qu'il faut mettre toute sa force, toute sa vitalité dans un sens pour saisir à travers l'image la détermination intelligible, la forme intelligible. Une forme qui n'est plus sensible, qui est intelligible. Et ça, je constate du fait même que mon intelligence assimile. Elle est vitale, elle assimile des formes intelligibles. Et assimiler des formes intelligibles simples, c'est l'appréhension. L'intelligence appréhende. Elle a une vitalité d'assimilation. C'est le propre de la vitalité. Ce qui est assimilable. Et elle rejette le reste. Elle laisse tomber. Quand elle n'a plus assez de vitalité, elle ne rejette plus rien. Il n'y a plus l'abstraction. Et alors il y a la confusion. Et ça peut aboutir à la mort. Il y a des empoisonnements au point de vue végétatif. Et les empoisonnements au point de vue végétatif est qu'on a absorbé quelque chose qu'on ne devait pas absorber. On a assimilé quelque chose qu'on n'avait pas assimilé. Si on était plus vital, on l'aurait rejeté. Et si on est malade, on assimile tout. Puis il y a des choses inassimilables. Tout. Empoisonnement. Et il y a des empoisonnements à l'intelligence, au point de vue vital. C'est extraordinaire. Alors comment expliquer ce procédé d'assimilation de l'intelligence que je constate? Je dis que l'intelligence est immanente, qu'elle assimile au-dedans d'elle-même, mais qu'en même temps, elle a la capacité de rejeter et d'illuminer ce qui est bon pour elle. Alors on posera l'intellect agent et l'intellect possible pour expliquer l'assimilation. Pour expliquer cette assimilation à ce niveau intelligible et universel. L'assimilation intentionnelle. Cette assimilation intentionnelle a un caractère propre. C'est une opération propre, caractéristique de l'intelligence, qui est naturelle. Mais qui est naturelle, mais qui, comme toute chose naturelle, peut très bien connaître des déficiences. Je ne dis pas qu'il y a des maladies de l'intelligence, mais on pourrait presque dire ça. En fonction du conditionnement. Pas en fonction de l'intelligence, mais en fonction du conditionnement. Et le conditionnement, c'est le passage de l'image à la forme intelligible, au concept. Et c'est dans ce passage qu'il peut y avoir des maladies provenant d'une intelligence qui n'a plus sa vitalité propre. Et c'est pas l'intelligence qui vieillit. C'est le conditionnement qui est trop fort. Mais c'est comme ça qu'on a des maladies de cœur, vous savez bien. Quand le conditionnement est trop puissant, alors le cœur ne peut plus. Il est empâté. Il ne peut plus. Et alors là, c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre. Hein, en fonction de la culture. Une culture qui intensifie le point de vue imaginatif. Au bout d'un certain temps, fait que l'intelligence ne peut plus. Vous voyez, c'est ce que Platon exprime par le point de vue de la caverne. C'est que dans une caverne, l'intelligence saisit autre chose que ce qu'elle saisit immédiatement. Ce qu'on saisit immédiatement, c'est des représentations. Il ne faut pas être très intelligent pour saisir les représentations, pour saisir les affiches. Il ne faut pas être très intelligent. Évidemment, c'est qu'il voit très astucieux. C'est des affiches admirables. Tout le génie actuel est dans les affiches. Et on voit bien, il y a des choses assez étonnantes, des phrases bien, bien tapées, quelquefois c'est complètement idiot. Et puis le dessin, c'est de la représentation. Ça. Et l'intelligence s'arrête à ça, parce qu'il y a tellement de représentations. Et dans la télévision, il y a tellement de représentations, il n'y a plus que ça. Alors on reste là, on n'a plus le courage de s'appliquer à comprendre, à saisir plus loin. Et l'intelligence s'endort. L'intelligence s'appesantit à cause du contexte. Alors, il n'y a plus cette vitalité. C'est une intelligence qui veut pénétrer. Quand je dis c'est naturel, mais il y a une application. Je veux comprendre. Je veux saisir. Je veux aller au-delà de la représentation. Ça, c'est l'application volontaire. Pas croire que je suis intelligent en me tournant les pouces. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut lutter pour être intelligent. Ça, c'est sûr. Autrement, on s'endort, on s'endort bien comme tout le monde. On descend le fleuve. Et là, on monte à la source. Il faut avoir cette volonté. Et là, en tant que vivant, je sais qu'il faut cette application. Et que j'ai de la peine dans le monde d'aujourd'hui d'être intelligent. Parce que la propagande est telle qu'on n'a qu'à suivre. La représentation est telle qu'on n'a qu'à suivre. Donc, il y a dans la saisie intellectuelle de l'appréhension quelque chose qui exprime la vitalité propre de l'intelligence, qui veut dépasser le sensible, la représentation, pour saisir l'aspect quantitatif des choses, c'est-à-dire leur signification universelle. Ensuite, je constate cette opération beaucoup plus parfaite, qui n'est plus ce qu'il y a de sympathique, mais analogue au premier amour. pénétration de l'intelligence dans l'assimilation. Puis ensuite, dans l'ordre affectif, il y a l'acceptation d'un amour. Eh bien, il y a quelque chose d'analogue dans l'intelligence. C'est que l'intelligence va pouvoir discerner et adhérer. Elle va pouvoir juger. Le jugement est une opération complexe et qui me permet de me reposer. Je ne me repose pas dans l'appréhension. Je suis. J'allais dire en élan vital. C'est un élan vital, l'appréhension. L'élan vital de Bergson, n'est-ce pas ? C'est un élan vital, l'appréhension. Et il y a ça dans l'appréhension. Peut-être qu'on devrait dire ça, l'élan vital de l'intelligence, qui ferait comprendre ce que c'est que l'appréhension. Ce qui ferait comprendre cette force dynamique extraordinaire de l'intelligence qui ne veut pas s'arrêter à la représentation et qui veut percer dans le jugement. Il y a un certain arrêt de l'intelligence. L'intelligence est capable d'avoir conscience. Elle a conscience. Dans toute conscience, il y a un certain arrêt. Je me repose dans ma conscience. J'ai conscience de saisir quelque chose distinct du réel. Premier sensible. J'ai conscience de m'être élevé plus haut et d'avoir un certain recul, de porter en moi un monde intelligible. C'est ça que me donne le jugement. Il me donne conscience de ce monde qui est le monde de ma vie intellectuelle. Je porte en moi un monde particulier d'intentionnalité avec des relations multiples. Je peux réfléchir, je peux méditer, je peux me mettre loin de tout le vacarme des gens. Je suis autour de moi de gens qui regardent la télévision, moi je m'absorbe dans un autre monde. Je me mets à méditer. À méditer intellectuellement sur mes diverses relations, sur ce que j'ai connu. Il y a tout ce monde qu'on porte dans le jugement. Alors, le jugement, il est conscient. Et le jugement possède une diversité extraordinaire depuis le jugement hypothétique, depuis le jugement affectif, des désirs insatisfaits, des jugements optatifs. Je souhaite à mon ami bon succès. Je me souhaite à moi-même bon succès. Jusqu'au jugement très impératif, fais ceci. Il y a toute une gamme de jugements. Et ça, je dois reconnaître toute cette gamme de jugements très très nombreux. L'activité consciente. Et je vois que dans toutes les sciences, il y a des jugements différents, à des niveaux différents d'intelligibilité et de certitude et d'évidence. Le monde du jugement, vous voyez, la très grande diversité des jugements, jusqu'au jugement critique. Alors, par le fait même, je vois que les qualités du jugement sont extrêmement diverses. Dans un jugement optatif, je souhaite. Je m'élève au-delà du réel, ennuyeux, et je souhaite à la personne que j'aime d'entrer dans un monde un peu plus intéressant. Je lui souhaite d'entrer dans le paradis terrestre. Là, au moins, tu seras tranquille. Tu quitteras ce monde. Tu es dans un milieu affolant. Il faut quitter ça. milieu humain, il y a toujours de l'hommerie. Et l'hommerie, c'est pas drôle. C'est la jalousie, c'est l'envie, c'est toutes les... C'est le requin qui veut manger le plou. Le gros requin qui veut manger les petits requins. C'est le loup qui veut avaler tous les autres loups. Et ainsi de suite. C'est la lutte, c'est la lutte. Et la lutte permet un certain affinement, un certain jugement. Alors, quelle est la note dominante du jugement à travers tous ces jugements? Jugement affectif. Je t'aime. C'est un jugement quand je dis je t'aime. Quand vous dites je t'aime, quelle est la note du jugement? C'est que vous portez vers la personne que vous aimez et vous ouvrez vos bras. Je t'aime. Je suis accueillant. Je t'aime. Et quand vous dites à quelqu'un, oh, je t'aime pas, vous lui tournez le dos. Et le jugement affirmatif et négatif, l'accueil, et je ferme les portes. Et quelquefois, je lance de la poix. J'ai de la haine contre toi. Je jette toutes les imbécilités que je peux inventer et tous les jugements les plus terribles que je peux dire. Et il y en a dans toutes les langues. Le père Ramirez disait qu'il n'aimait pas beaucoup Jacques Maritain. Le père Ramirez, espagnol, grand espagnol, disait qu'il faisait les recensions en latin parce qu'on injuriait mieux en latin qu'en espagnol. Et c'est vrai que le latin injurie très bien. Mieux que le grec. Quoique le grec aussi, mais quand même, mieux. Avec plus de précision. Le latin est une langue précise. Le grec est une langue plus poétique. Plus intuitive. Vous voyez, dans chaque langue, les jugements sont différents. Alors, c'est intéressant d'essayer de saisir qu'est-ce qui caractérise, vous voyez, l'appréhension, l'élan vital. Je crois que c'est ça qui caractérise l'appréhension. C'est la sortie de l'intelligence dans sa jeunesse, dans sa force, dans son élan d'amour, dans son élan intelligent. On veut percer. Le jugement, c'est la conscience que j'ai de me situer au-delà du monde sensible. Donc, dans le jugement, il y aura, je crois, en premier lieu, le discernement. La conscience va tout de suite aller vers le discernement. Krinein, discerner en grec, c'est net. C'est le fait de discerner. Et vous voyez, dans l'affirmation et la négation, c'est le discernement qui domine. Ceci est, ceci n'est pas. C'est le gros discernement. Je t'aime, je te hais. Quelquefois, on dit ça 5 minutes après. Alors, on se dit, tiens. Parce que l'affectivité passionnelle passe facilement dans deux extrêmes. Et on peut être sincère en disant je t'aime plus que n'importe qui. Je te hais plus que n'importe qui. Et on est sincère des deux côtés. Mais la sincérité qualifie le jugement affectif. C'est l'affectivité qui domine dans la sincérité. Et alors, le discernement est très particulier. Il y a un discernement, puis il y a une adhésion dans le jugement. Ceci est vrai. J'y adhère. Vous voyez, il y a une espèce de réduplication dans l'adhésion. C'est pas seulement le jugement, mais il y a choix des modalités très diverses. Je crois que les deux aspects particulièrement, c'est discerner et adhérer. Il y aura d'autres modalités dans une conscience. Et le jugement a cette qualité particulière de pouvoir atteindre la vérité. Tandis que dans l'appréhension, dans l'élan premier de l'intelligence, non. Il n'y a aucune saisie de la vérité. Il n'y a aucune adhésion de la vérité. Alors, c'est ça qui est intéressant à voir, vous voyez, c'est que le jugement, je veux dire, l'intelligence, dans son élan vital, connaît cette simplicité. Et l'intelligence, dans sa perfection, réfléchissant sur son activité propre, est capable d'atteindre la vérité et de dire ceci est vrai. C'est dans un jugement qu'elle dit ceci est vrai. Et dans un jugement réflexif, l'intelligence est capable de réfléchir sur elle-même. Et c'est le propre de l'activité du jugement. Elle réfléchit sur elle-même en disant ceci est vrai. Quand l'intelligence dit ceci est vrai, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affirme que ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime, le fruit de son jugement, est conforme à la réalité. Ceci est vrai. Et quand l'intelligence dit « je t'aime et je t'affirme que c'est vrai », l'intelligence à ce moment-là veut montrer que son affection, son amour est conforme aux intentions profondes de sa volonté. Mais il y a des mesures différentes, et pour ça qu'il y a des vérités différentes. Quand vous dites à quelqu'un, du moins, quand vous jugez quelqu'un en disant « il a bien travaillé », vous qualifiez le travail de bien. Il a bien travaillé. Il a travaillé en vérité. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a bien travaillé. Ou bien, il a fait tout ce qu'il pouvait. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Parce que ça peut être un travail médiocre. Mais vous dites, il a fait tout ce qu'il pouvait. Ce gars de sauce, il ne pouvait pas faire plus. Alors, vous voyez, la mesure est différente. C'est ça qui est très curieux. L'intelligence se donne à elle-même les diverses mesures de son jugement et de la qualification de son jugement. Alors là, vous pouvez faire l'inventaire. C'est intéressant à faire, du reste. L'inventaire de tous les jugements et de toutes les manières de qualifier le jugement. Vous ne dites pas la même chose, voyez. Quand vous dites « Ah, il a été sincère dans ce qu'il a dit. Il a été vrai. Il a travaillé autant qu'il pouvait. Je vous affirme, vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas faire mieux. » Alors, vous regardez ses capacités et vous jugez le travail en fonction de ses capacités. Et quand vous dites « Ah, ce travail, merveilleux, on ne pouvait pas faire mieux. » Vous regardez par rapport à une mesure extrinsèque à celui qui a travaillé. C'est très curieux comme l'intelligence est capable de se donner à elle-même une mesure. Reconnaître que la mesure de tous ces jugements, en définitive, c'est la réalité. Alors, vous voyez le petit problème qui se pose, qui est très intéressant, parce que c'est la question de l'appréhension et du jugement. Quand l'intelligence dit « ceci est vrai », c'est conforme à la réalité existante. Cette réalité existante, c'est par exemple Pierre. C'est toujours Pierre qui est la réalité existante. C'est Pierre. Et vous dites, Pierre est intelligent. Et je vous affirme que ceci est vrai. Donc vous réduplique sur ce que vous dites en disant ceci est vrai. présente. Vous voyez, ça c'est très important pour comprendre ce que c'est que le jugement, au point de vue de sa vitalité. Parce que là, je saisis la vitalité propre de l'esprit. En disant, Pierre est intelligent, je vous affirme ceci est vrai. Et vous prenez à témoin tout ce que vous voulez. Voyez, c'est une chose curieuse. Selon l'appréhension, j'ai saisi dans Pierre cette qualité particulière qui est l'intelligence. Parfaitement. est un acte qui n'est pas seulement la somme de toutes tes appréhensions. C'est un acte propre qui me met directement en contact avec la réalité. Ceci est, c'est parce que je suis capable de saisir la réalité existante que je peux confronter Pierre d'intelligence, ceci est vrai. S'il n'y avait pas le jugement d'existence, s'il n'y avait pas cette addition d'intelligence avec le réel, je ne pourrais pas dire ça. Donc, au-delà de toutes les informations, il y a la réalité que je touche dans un jugement d'existence. Autrement dit, l'intelligence est capable de dépasser l'assimilation. L'intelligence ne saisit pas que ce qu'elle assimile. L'intelligence est capable de toucher, d'atteindre quelque chose qui est au-delà de toute assimilation. Pierre existant, je ne peux pas l'assimiler. Je ne suis pas un boa. Je ne peux pas l'assimiler, je le respecte. Je le respecte comme une réalité qui est extérieure à moi et qui est, d'une certaine manière, plus que moi. Parce que toute réalité qui existe est antérieure à moi et plus que moi. Plus que ce que j'affirme d'elle. Plus que moi, dans ce sens-là. Plus que ce que j'affirme d'elle. Il y a toujours dans la réalité existante plus que ce que je dis d'elle. C'est pour ça qu'elles peuvent servir de mesure par rapport à ce que j'affirme. Mais comment l'intelligence peut-elle saisir ce plus? Parce qu'elle est faite pour l'être. Jugement d'existence. C'est le jugement d'existence qui me permet d'expliquer comment je peux dire « Pierre est intelligent, je vous affirme, c'est vrai ». Et là, je saisis ce qui caractérise le jugement d'existence. C'est que j'adhère au réel. Adhérer au réel, ce n'est pas l'assimiler. C'est reconnaître qu'il existe et qu'il est la mesure de mon intelligence. Alors, je vois tout de suite deux choses très importantes dans ma vie intellectuelle. C'est que, à la fois, il y a l'assimilation, l'intelligence assimile. Et elle assimile ce qui la détermine, ce qui la spécifie. Et là, je découvre ce que c'est que l'objet. L'objet propre de l'intelligence. Et ce qui est capable d'être assimilé. Ce qui la détermine et ce qui est capable d'être. Donc l'intelligence a une vitalité propre d'assimiler en transformant tout dans le point de vue de la forme intentionnelle. C'est là le vécu d'intelligence. Tout ce que l'intelligence a assimilé, c'est le vécu. Mais l'intelligence a quelque chose de plus. Et même c'est ce qui la caractérise encore plus. L'intelligence est capable de s'affronter au réel. Est capable de reconnaître qu'elle n'est vraie que quand elle est conforme au réel. Alors, c'est le point de vue de l'adhésion. Confrontée, elle se heurte à quelque chose qui est plus, qui est une mesure. L'intelligence comprend que la réalité existante est plus que ce qu'elle assimile. Et cette réalité existante peut mesurer ce qu'elle connaît. Oui, comment l'assimiler.